Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Conspiration des Planches, l'émission critique des arts de la scène de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. C'est le mercredi en première diffusion à 19h jusqu'à 19h30 et en rediffusion le jeudi à 13h30, une petite demi-heure pour passer en vue l'actualité scénique de cette semaine sur les planches bruxelloises. Une petite semaine tampon, on va dire, hein, entre d'autres événements plus importants, puisque le Kunsten vient de se terminer. On attend d'autres, les dernier festival de cette fin d'année, mais on reviendra quand même sur ce Kunst, c'est un moment important, il est important aussi de prendre le temps, de voir un petit peu en arrière ce qui s'est passé, si on a eu une bonne édition, eh bien on en parlera avec nos chroniqueurs, on ira aussi du côté de la Monnaie, et puis on vous parlera d'un petit festival tout à fait intéressant du côté d'Ixelles, le Coquard Festival, mais ça ce sera pour la deuxième partie d'émission. Bonjour Christian.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en ce studio, et je dis par la même occasion bonjour à Catherine.
Bonjour.
Alors, ce Kunst, on en parle quasi pendant un an et voilà, c'est déjà fini. C'était la dernière soirée, le 25 mai dernier. Une édition 2013 qui, d'emblée, je crois, vous a beaucoup plu. Catherine, peut-être.
Ah oui, moi, tout ce que j'ai vu, j'ai aimé. moi, j'ai peut-être une petite frustration parce qu'apparemment, c'était un succès à la fois public et critique. Ils ont rempli leur salle à 97%. Ils ont vendu 24 000 tickets. Alors moi, je me demande pourquoi est-ce qu'ils font pas des séries plus longues à chaque fois pour les spectacles, puisque beaucoup d'entre eux affichent complet, ça laisse beaucoup de gens frustrés. Voilà, moi, ce serait peut-être mon petit bémol pour l'année prochaine, prolonger un petit peu un festival qui marche.
Christian ?
Mais oui, moi, il y a à peu près 20 ans que je suis ce festival. Et au début, Catherine, tu aurais été encore plus frustrée puisque c'était une, deux, maximum trois. Ils ont déjà allongé la sauce, en tout cas pour les productions belges. Et comme ils ont appris à faire des coproductions, ça leur donne un peu d'argent pour faire parfois des séries de 4-5. Au-delà, tu sais comme moi que plus tu allonges une série, plus elle coûte. Et donc, la frustration, à la limite, fait partie du jeu, puisqu'elle accélère la réservation et elle permet de remplir les salles. Donc, il y a une contradiction à peu près insoluble entre le niveau financier d'un festival et le désir des gens d'y aller. Maintenant, il y a une troisième solution, c'est que la plupart de ces spectacles étant en coproduction, et les gens qui voyagent, eh bien, ils peuvent voir certains spectacles à Avignon, certains spectacles au Festival d'automne, pour ne parler que des francophones, parce qu'ils vont aussi à Amsterdam, à Berlin, etc., etc.
Et on en parlera justement de ces spectacles qui circulent par la suite en cette fin de bilan. Alors, point de vue artistique, Christian, peut-être quelques points forts à pointer ?
Oui, ben, disons que moi, je partage l'impression de Catherine, à savoir que j'ai eu des frustrations mineures. J'ai pas tout aimé, mais ça, pas tout aimé à fond. Est-ce qu'on peut ? Bon, le problème, c'est que l'éventail était, disons croustillant, c'est-à-dire appétissant. C'était des spectacles généralement courts, une heure et demie. Donc, relativement digeste, et même si on n'aimait pas, on pouvait toujours se dire, bon voilà, ça ne va pas trop durer. Mais il se fait que moi, j'ai pratiquement aimé tout. Pourquoi ? Parce que, comme d'habitude, je dirais au Kunst, il y a un très beau mélange de production belge, flamande et francophone de haut niveau. Catherine va y revenir, moi je vais y revenir. Deuxièmement, c'est un beau mélange international, et moi je, pratiquant l'espagnol, et Catherine aussi d'ailleurs, j'ai un faible pour tout ce qui vient d'Amérique latine, et il y en a quelques-uns qui viennent de là, et j'ai aussi un faible pour ce qui vient des pays de l'Est, et il y en a aussi. Donc, le mélange, l'offre, la proposition belge du meilleur niveau et européen et le mondial fait que franchement c'est assez excitant.
Alors, je vous ai demandé de pointer les quelques spectacles qui vous ont vraiment marqué. Catherine, je crois que toi, tu es allée voir Anne-Cécile Van Dalem, qui était aussi attendue, notamment dans les productions belges, pour ce festival. Et je crois que c'est un de tes coups de cœur.
Oui, Anne-Cécile Van Dalem, qui d'ailleurs reviendra dans la saison prochaine du Théâtre National.
Avec ce spectacle ?
Avec ce même spectacle, tout à fait. Sur les utopies avec Vincent Lécuyer. C'était un spectacle vraiment, pour moi, très fort. Mais en fait, je pourrais dire la même chose de tous les spectacles que j'ai aimés. En fait, ce que j'ai aimé, c'est que souvent, ces artistes ont une idée, une vision, et ils ont l'audace d'aller jusqu'au bout. Et sans jamais être complètement... Donc c'est radical, mais c'est pas forcément austère ni autiste. Donc on est dans quelque chose de très sophistiqué qui coupe tout superflu et moi c'est surtout ce jusqu'au boutisme là que j'ai aimé. Alors c'est vrai pour Anne-Cécile Van Dalem, donc After the Walls, Utopia, qui est apparemment le premier volet d'un projet en deux parties. Mais en tout cas, cette première partie, on pourra la retrouver dans la saison prochaine du Théâtre National. Vincent Lécuyer qui se lance dans une logorée fiévreuse, qui tient ça pendant une heure et demie, peut-être même un peu plus, sur les utopies. Et en démontant les discours avec un brio magistral.
Alors Anne-Cécile Van Dalem, on l'avait vu notamment dans sa trilogie des parenthèses avec Habituation, avec aussi un dispositif technique très fort. Est-ce que c'est le cas aussi ici ?
On est dans beaucoup plus de sobriété. C'est Vincent Lécuyer qui est seul avec un micro face au public. Ce qui marche très bien aussi, c'est qu'il fait, qu'il interagit avec ce public de manière un peu provocante, un peu dérangeante. Mais surtout, c'est un discours très, 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 très intelligent d'Anne-Cécile Van Dalem qui sort de dispositifs impressionnants visuellement pour aller dans quelque chose, pour moi, impressionnant dans le contenu. Cette fois-ci.
Alors c'est un peu ce que permet ce festival, justement, c'est permettre à ces artistes d'aller jusqu'au bout. Parfois, peut-être quand on travaille pour un théâtre, on est un peu dans un carcan ou en tout cas dans un contexte artistique un petit peu plus fermé, je dirais, ou en tout cas plus ciblé au niveau style. Je ne sais pas, Christian.
Non, je ne crois pas. D'abord, je partage tout à fait l'avis. C'est curieux comme nous coïncidons. Souvent, il nous arrive de diverger et curieusement, on a pris le même plaisir et parfois ensemble, comme dans le Christ de Ford, avec pour Catherine une surprise supplémentaire, qu'elle croyait ça beaucoup plus austère que ce n'est finalement. Et donc, dans le cas d'Anne-Cécile Van Dalem, disons que la création précédente où elle était beaucoup plus radicale, où ça se passait dans le noir, etc., on ne voyait pas les acteurs, il n'y avait pas de décor, c'était un petit peu limite. Ici, on revient dans l'humain, on revient dans le festif, très intellectuel, mais très pointu et en même temps très accessible en raison du rôle très, très bien fichu pour Vincent Lécuyer.
Et donc voilà, ça c'est cette création d'Anne-Cécile Van Dalem. On rappelle le titre, Catherine ?
After the Walls. Entre parenthèses, Utopia. Parce qu'il y a
encore des parenthèses. Et on la retrouvera donc avec ce spectacle la saison prochaine. Ce sera du côté du Théâtre National. Christian, un de tes coups de cœur peut-être ?
Oui, moi, disons, je porte mes coups de cœur vers l'Amérique latine. D'abord avec Mariano Pensotti, qui n'en est pas à sa première aucune, qui est un Argentin, et qui, comme le disait Catherine, parvient à mêler différents mondes. Et en même temps, à un peu se payer la tête, parce que ça s'appelle cinéastas. Et la mode actuelle veut qu'il n'y ait plus une pièce de théâtre, pour faire moderne, qui n'ait son accompagnement vidéo. Donc on se dit, ah oui, cinéastas, il va nous en mettre plein la vue de vidéos. Ben non, il n'y en a pas une, il n'y a rien, il y a parfois une photo. Qu'est-ce qu'il nous montre dans cinéastas ? Quatre cinéastes en train de créer,
mais qui pourraient aussi bien être des auteurs de théâtre, qui nous exposent leur scénario, les difficultés de leur scénario. Ça se passe sur deux niveaux de scène, et il parvient à mêler les quatre histoires. C'est parfois, on s'y perd parfois un peu, mais en même temps qu'il raconte quatre histoires de personnages qui ont des problèmes d'amour, des problèmes de politique, il fait l'histoire de son pays depuis la dictature jusqu'à la fin de la dictature, et même jusqu'au... Il se moque aussi de l'amour qu'avaient les révolutionnaires avant qu'ils ne soient coincés par l'armée pour la Russie. Et il détricote toutes les idéologies par lesquelles ils sont passés. Mmh. Et c'est très drôle. C'est parfois un peu bavard, mmh. mais ça dure une heure et demie.
Voilà. Ah, ça, c'est les latins. Hein.
C'est très latin. Ah, ça, bon, de toute façon, on n'échappe pas à la parole quand il s'agit d'Argentin. Ça, c'est tout à fait clair.
C'est un spectacle qui tournera ou pas, ça?
Oui, c'est un spectacle qui n'ira pas à Avignon, mais qui ira au Festival d'automne et au Wienerfest Wochen pour ceux qui se payent.
On profitera de l'été, en tout cas.
Voilà, c'est une invitation à voyager.
Voilà. Catherine, toi, c'est une expérience sensuelle que tu as connue avec Marcelo Evelyne. Tu nous en as déjà touché un mot la semaine dernière.
Et toucher un mot, c'est le cas de lui.
Et c'était aussi un de tes coups de cœur, Marcelo Evelyne, oui. Le Brésilien.
Marcelo Evelyne, en effet, là, on est à l'opposé du style bavard, puisque c'est plutôt de la danse. Avec de repente fica tudo preto de gente, j'aime bien pratiquer un petit peu mon accent brésilien, qui veut dire soudain tout est noir de monde. C'était une expérience, c'est vrai, très forte, où on était plongé dans le noir, mêlé à des corps peints de noir, donc on distinguait à peine, mais qui vous frôlaient, vous bousculaient parfois, tombaient dans des magmas corporels, ou alors se lançaient dans des danses tribales, primitives, ou des orgies. Sensuel ou sexuel, c'est selon les interprétations. Mais oui, c'était une expérience très forte et assez représentative du style du Kunst qui aime bousculer nos habitudes de spectateurs, qui aime voilà, casser les codes classiques d'un public qui reste assis face à une scène, mais qui préfère la confrontation entre les artistes et le public. En tout cas, là, ça fonctionnait très bien.
Le KFDA, un festival d'expérience pour le spectateur. En tout cas, c'est ce que promet à chaque fois le programme. Et je crois que cette fois-ci, il l'a bien rempli. Alors, encore un petit coup de cœur, Christian, c'est sur Bruno Beltrão.
Oui, c'est également dans l'ordre de la danse. Bruno Beltrão est un chorégraphe de Rio, et qui s'intéresse en particulier aux quartiers pauvres de Rio. Et il parvient dans son groupe, s'intitule pas pour rien Grupo de Rua, je prononce à l'espagnol, mais pas à la brésilienne, mais enfin, voilà. Et il propose un spectacle qui s'appelle Crax. C'est un spectacle assez court. Quel en est l'intérêt? C'est qu'il parvient de partir de groupes de hip-hop classiques. On les voit d'une souplesse, d'une beauté physique, les groupes en particulier, au début. Donc, ça part de là. Et puis, progressivement, il élague, il utilise cette force de la rue pour la mettre au service d'une danse plus classique, où on ne roule plus par terre, on se tient debout, on forme des ensembles. Et il y a, je crois, 8 garçons et une fille, et je dois dire que si j'ai un coup de cœur, c'est pour la fille, parce qu'elle se détache. C'est fait exprès, évidemment. Oui. Elle se détache. Elle a une crinière blonde, alors qu'elle est mulâtre comme les autres, ou noire. Je crois qu'elle est plutôt mulâtre. Et elle a une force, une présence, qu'on dirait qu'elle est le chef d'orchestre et qu'elle dirige tout ce groupe. Et il y a une vigueur, une force, une tchatch extraordinaire. Et je, généralement, on ne connaît pas le nom des danseurs. Mais elle s'appelle Barbara Pinto Lima. Voilà. Et honnêtement, si vous avez l'occasion de voir cette fille dans ce groupe ou ailleurs, elle, à mon avis, on va la lui piquer. C'est pas comme dans les transferts en foot, mais on va la lui piquer, cette jeune fille.
Ça s'appelait comment, ce spectacle?
Et ça s'appelle Crax.
Crax.
Voilà.
Voilà pour,
et ça passe aussi au Festival d'automne.
Voilà. Ah, ben voilà. Donc, il reste encore un petit peu de ce côté-ci de l'Atlantique pour ces spectacles.
Voilà, à 1h25 de Bruxelles.
Alors, pour terminer ce bilan, on va juste rappeler, parce qu'on en a déjà parlé dans des précédentes éditions, c'est le retour à Avignon aussi du spectacle d'Anne-Thérèse de Kersmacher que vous avez vu tous les deux. Vite, en deux mots, une impression, Catherine?
Oui, c'est un spectacle à voir absolument, de par surtout en fait la performance de la violoniste. Ça commence comme ça dans le noir pendant, je dirais bien, 20 minutes où on n'écoute que la musique. Déjà ça c'est très fort. Et puis après on voit les danseurs mais sans la musique. Alors ça c'est très très intéressant parce qu'on entend la musique à travers le corps des danseurs. Et puis dans la troisième partie, la danse se colle sur les notes de musique, donc tout le monde est en scène. Un spectacle, oui, à voir absolument à Avignon.
Le titre de ce spectacle?
Partita 2.
Partita 2.
Il faudra aussi rattraper Antoine Defort et Alaric Doerger. Et puis aussi dire que Claude Schmitt sera artiste associé au HAL. Et moi, j'ai beaucoup aimé son Mélanie Daniels, qui mêlait à la fois Hitchcock et David Lynch. Ça, c'était très fort, très foisonnant. Dire aussi que Mette Edvardsen sera artiste associé au Kai Theater. Et on a pu voir d'elle les livres vivants à la Bibliothèque Royale, où on avait un face-à-face avec un artiste qui avait appris par cœur un livre. Et qui le délivrait comme ça dans un tête-à-tête passionnant. Et puis on l'a dit, Anne-Cécile Van Dalamo National. Voilà, donc finalement, on peut rattraper beaucoup de choses.
Eh bien, c'est bien tout ça. Voilà. Oui. Christian, alors, dernier mot.
Une petite interrogation, ce n'est pas un bémol, c'est une interrogation. Le spectacle d'Anne-Thérèse de Kersbacher, dans la cour d'honneur, ça fonctionnait très bien ici. Dans la cour d'honneur, il faudra réduire l'angle parce que c'est immense. Ils sont deux. Anne-Thérèse porte le grand gaillard. Et il y a donc un défi sur la largeur de la scène et qu'ils doivent meubler à deux. Et c'est ma seule interrogation concernant ce spectacle, parce que sinon, comme je suis d'accord avec Catherine, il fonctionne fort bien.
Merci en tout cas à vous deux pour ces impressions sur ce Kunsten Festival des Arts. Rendez-vous l'année prochaine au mois de mai pour le retour de ce Festival international des arts de la scène et de la création à Bruxelles. On fait tout de suite une petite pause musicale. On souhaite bonjour à Catherine, on se dit à la semaine prochaine.
Oui, allez. Au revoir.
Et on ira juste après du côté de la Monnaie.
La conspiration.
On est de retour dans la conspiration des planches après avoir fait un débriefing du Kunsten Festival des Arts. Retour à l'actualité avec en ce moment un grand invité justement du côté de la Monnaie, c'est Michael Haneke qui se frotte à l'opéra, Christian.
Oui, se frotte à l'opéra, c'est pas la première fois d'ailleurs, parce que tout a une histoire. Donc Haneke, on va pas rappeler sa grandeur, sa célébrité, ses consécrations à Cannes, aux Oscars, l'amour l'année passée, le ruban blanc avant, la pianiste, enfin je veux dire, ce qui est curieux, c'est que ce monsieur de 70 ans n'a commencé à percer qu'à 46. Et c'est une des curiosités parce que en Autriche, nous dit-il, il a pu faire que des téléfilms avant parce qu'il n'y a pas une grande tradition cinématographique en Autriche. Et donc, il a été découvert progressivement, d'ailleurs par Cannes, pas tout de suite par la sélection officielle, mais par la quinzaine des réalisateurs. Donc, c'est un petit peu l'histoire paradoxale de ce monsieur de 70 ans qui est extraordinaire. Et qui, au point de vue de son esthétique, ce film est entre Bergman, Bresson et des gens de cette qualité-là. Bon.
Il s'attaque ici à Così fan tutte.
Il s'attaque à Così fan tutte, mais ici, ce n'est pas une création, ça vient de Madrid. Pourquoi ? Parce qu'à Madrid, maintenant, règne Gérard Mortier. Avant, il régnait sur Paris. Et il avait déjà eu l'idée de demander un Don Giovanni, qui avait fait scandale parce que Paris est très conservateur, et qu'il avait planté Don Giovanni dans un décor qui ressemblait autour de la Défense à Paris. Donc, un décor tout à fait moderne. Et Don Giovanni était un homme du CAC 40, quoi, voilà, qui troussait les... Voilà. Bon, ici, dans Così fan tutte, venons-en à Così fan tutte, qui est quand même un des opéras de Mozart qu'il a interprété littéralement à la lettre. Così fan tutte, c'est assez antiphémique. Elles font tout ça, c'est-à-dire elles nous trompent toutes, en gros. Et il est mis où la scuola dei amanti, l'école des amants. Bon, il se fait que, rappelons brièvement l'intrigue apparemment c'est un vaudeville, c'est des couples qui se trompent, avec un maître du jeu, Don Alfonso, et
sa complice qui est une servante d'Espina. Et c'est un peu les liaisons dangereuses, c'est-à-dire c'est ceux qui vont monter les amants les uns contre les autres avec une idée fixe, prouver que l'amour n'est pas éternel, prouver qu'il est impossible d'être fidèle. Et il y a un côté déjà l'école, hein, l'école des amants, c'est l'école de la tromperie malgré les belles promesses. Et ça s'installe comme ça. Bon, vous avez deux couples qui disent « je suis sûr », deux hommes qui disent « je suis sûr que ma femme me sera fidèle et l'autre confirme. Don Alfonso dit « je vais vous prouver le contraire » et il les expédie d'abord loin, il les excite à se tromper. Ça met un peu de temps pour Fiordiligi, c'est un peu plus rapide pour Despina, mais le résultat est le même. Et alors, qu'est-ce que Haneke apporte à ce vaudeville, finalement, qui se termine bien, ils finissent par se réconcilier ça s'appelle drama giocoso, c'est-à-dire drame joyeux. Et bien ici, Haneke, avec son tempérament, enlève un peu de joie et tire vers le drame. Et qu'est-ce qu'il fait pour ça? Il augmente la durée des dialogues dans lesquels on peut les voir s'affronter. Ça ralentit un peu, c'est mon reproche principal, et l'intrigue, ils jouent d'ailleurs très bien ces jeunes chanteurs, et même l'orchestre qui est obligé d'un petit peu ralentir le tout pour rendre le jeu des acteurs-chanteurs plus évident dans leur évolution, dans leur contradiction, dans l'analyse psychologique.
Donc, à la fois, il fait jouer un maximum ses chanteurs et acteurs, voilà. Mais quand il chante, évidemment, ça ressort de plus belle, alors.
Quand il chante, c'est tout le problème des metteurs en scène qui ne sont pas des metteurs en scène d'opéra, mais qui viennent soit du théâtre, soit du cinéma, c'est qu'évidemment, ils tirent un peu la couverture à eux. Hein. Bon, et donc, mais Haneke le fait avec subtilité, parce que sa démonstration qu'il est impossible que l'amour soit heureux et que les amants soient fidèles, ça va jusqu'à la fin, c'est-à-dire que il est obligé musicalement de faire le happy end, et puis quand les acteurs viennent saluer, ils contredisent le happy end en, au lieu de saluer très gentiment, ils se tirent les mains, ils se tirent les bras et ils se disputent en scène pour bien prouver, oui, écoutez, la fin de Mozart, vous avez tous compris que c'était de la fiction. Mmh. Voilà. Mais les jeunes acteurs sont des chanteurs magnifiques. Il y a notamment une découverte, Fiordiligi, Annette Fritsch, c'est encore un nom à retenir, elle est absolument superbe. Et l'orchestre, même à foi, il accompagne en douceur ses volontés de Haneke.
Est-ce qu'on sent la mathématique d'Haneke? On sait que ses films sont d'une froideur parfois exceptionnelle.
Ah aussi. Non, disons que ce qu'on peut lui reprocher, ce sont à la fois ses qualités. Oui. Parce que ses qualités, c'est de trouver un fil conducteur imparable, en même temps, pour moi, par rapport à ce que j'avais vu à Paris dans le Don Giovanni, ça me semblait un peu moins radical. Ça se passe aujourd'hui dans un grand salon mondain, il y a une vue sur un beau paysage italien. C'est assez conventionnel et assez banal. Il a tout mis sur le jeu des acteurs et sur la beauté de la musique, ce qui est déjà pas mal.
C'est ce qu'on retiendra lors de ce Così fan tutte de Michael Haneke, à voir en ce moment et encore quelques semaines, jusqu'au 23 juin plus précisément, du côté de La Monnaie, www.lamonnaie.be. Un bel événement quand même pour Bruxelles que d'accueillir.
Et on a le temps de le voir.
Et on a le temps de le voir, en tout cas. Et n'oubliez pas que La Monnaie fait aussi des prix intéressants pour les publics étudiants, en tout cas les moins de 30 ans. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur ces conditions, sur le site www.lamonnaie.be. Je vais clore cette émission avec un festival dont j'aimerais vous parler. On en avait parlé lors de sa première édition l'année dernière en recevant ses organisateurs. Il s'agit du Coquart Festival, un festival qui est organisé en ce moment à Excel et jusqu'au 1er juin, jusqu'à ce samedi, au Petit Théâtre Mercelis.
Le Coquart Festival ?
Le Coquart, voilà. Fernand Coq.
Oui. Non, mais j'avais cru comprendre. Pour les gens un peu durs d'oreille, mieux vaut préciser. préciser que ce n'est pas organisé par Coca.
Deux jeunes compagnies, non pas du tout, deux jeunes compagnies donc, sont à l'origine de ce festival. La compagnie La Tête à l'envers, dont on connaît la création debout de Stéphanie Manger, notamment du côté du jeune public et public adolescent. Et la compagnie de la Bête Noire, emmenée par Céline Delbecq, avec, on se rappelle, de Être, notamment, qui avait marqué les esprits. Très, très, très belle pièce. Alors, ces deux compagnies ont décidé d'organiser dans les lieux culturels d'Ixelles eh bien, une vitrine aux jeunes créateurs des quartiers qui sont ici. Il y en a pas mal, en fait. Et pendant toute cette semaine, on peut découvrir eh bien, à la fois des metteurs en scène, des auteurs, mais aussi des musiciens, des artistes photographes également, de la performance. Bref, un festival tout à fait diversifié et qui propose vraiment un éventail. Chaque soirée, l'entrée permet d'accéder à plusieurs propositions comme ça, et c'est tout à fait diversifié. Alors un exemple, hein, malheureusement on ne pourra pas revoir ce que j'ai vu hier, mais c'était notamment la lecture, la mise en voix d'un spectacle intitulé Les filles aux mains jaunes, un texte de Michel Bélier du Dynamo Théâtre, et qui revenait au cœur de la Première Guerre mondiale sur ces femmes obligées d'aller travailler à l'usine ou dans les usines d'armement pour suppléer évidemment aux hommes partis au combat. Alors, c'est aussi une époque où les féministes arrivent à engranger quelques combats, ou en tout cas font ressortir leur voix, puisque les hommes ne sont plus là. Et ça va être peut-être un petit peu, malheureusement, la déception à la sortie de la guerre, lorsque les hommes vont revenir et que les femmes seront bien gentiment renvoyées dans leur foyer. Ça, c'était un extrait. Mais par exemple, suivez également un spectacle musical, Jules et Jo, qui nous proposait ainsi un spectacle. Et alors, pour vous donner aussi un avant-goût de ce festival, je peux vous dire déjà que ce samedi, donc lors du dernier jour à 20h, se jouera Supernova, un texte de Céline Delbecq, un texte qui avait fait un petit peu scandale aux rencontres du Théâtre Jeunesse à Ouï lors de sa création. C'est le cri de trois adolescents décidés à ne pas se laisser marcher sur les pieds par des adultes, un malaise contemporain exposé au grand jour, et son traitement, notamment son entrée dans l'intimité et corporelle et psychologique de l'adolescence, en avait déstabilisé plus d'un, allant même jusqu'à une sévère critique vis-à-vis de Céline Delbecq qui s'en était défendue et qui avait été défendue par d'autres critiques également dans ce travail, pour dire que le théâtre adolescent, il ne faut pas les prendre pour des imbéciles, ils sont là également pour comprendre leur vie et pour qu'on parle d'eux, autant leur donner la voix. Voilà, il y aura également la nuit du sanglier, du zététique, une recherche d'identité, c'est comme et c'est quoi être soi par rapport à un autre, un frère, une sœur, un tout proche, ça ce sera vendredi. Et bref, il y a encore plein de créations que je vous invite à aller découvrir sur le site www.coqart.be, coqart.be, et tous les renseignements seront bien sûr sur notre site internet. Et c'est ici que s'achève notre émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci Christian. À bientôt pour d'autres aventures théâtrales et chorégraphiques. On viendra certainement la semaine prochaine sur l'ouverture des festivals qui s'ouvrent du côté du Marny et du théâtre Les Tanneurs. Excellente semaine à vous et à très bientôt. Constelación.